Bonjour à tous et bienvenue pour ma préférence un peu spéciale parce qu'il se trouve que Vanessa est venue me tirer de mon lit ce matin et je ne sais pas pourquoi. Alors pourquoi Vanessa est-ce que tu m'as tiré de mon lit ce matin ?
Ben c'est parce que je vous ai parlé, enfin bonjour à tous déjà, je vous ai parlé du Festival International du Film de Muret. Moi j'y ai passé 5 jours magnifiques. Et je voulais vous en faire profiter parce que, voilà, je me suis dit, ce serait sympa d'avoir la présidente du festival avec nous, Jo Loubet.
Bonjour.
Et puis Marie Lacombe, qui faisait partie du jury adulte.
Bonjour.
Voilà, donc je me suis dit, ce serait sympa de faire un petit retour et d'avoir des invités. Alors, notre première invitée, ce sera Esther Archambault. Oui, oui, vous ne trompez pas.
C'est une cousine à toi ?
C'est le même nom. Non, pas du tout, on n'est pas de la même famille. Et c'est pour le film Les Pires qui était en compétition, hein, je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et donc voilà, elle nous fait le plaisir d'être avec nous à la radio. Bonjour Esther.
Oui, bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien. Et toi ?
Bah, impeccable, hein, on est très heureux de te recevoir à la radio et que tu puisses nous parler un peu du film Les Pires.
Bah, je suis très heureuse aussi, merci de me recevoir. Les pires, il sort le 7 décembre, c'est très bientôt. Et j'étais super contente de venir le présenter à Muret il y a quelques jours. C'était un super débat, très bien animé. Les gens étaient hyper réceptifs, donc c'était vraiment chouette. Et là, on vient d'apprendre cet après-midi, ce soir, que Mallory, qui joue le rôle principal dans le film, est nominée dans les révélations des Césars. Enfin, en tout cas, elle est dans les 15 prénominées. Donc là, c'est la nouvelle qui vient de tomber et on est tous très, très contents.
Félicitations.
Merci. Ouais, donc c'est trop chouette. Voilà, là c'est la dernière nouvelle qui vient de tomber. Donc,
On sait comment tu es arrivée sur le film. Hein. Tu étais assistante casting.
Ouais.
Et tu t'es retrouvée embarquée dans cette drôle d'aventure où tu es passée devant la caméra.
Tout à fait. En fait, j'avais rencontré Romane d'abord en 2017. Sur le court-métrage de Marlène Serrour qui a fait le casting du film. Et on s'était liés d'amitié. J'avais travaillé avec elle à plusieurs reprises derrière la caméra, notamment pour leur série Tu préfères. Et quand elles ont écrit Les Pires, elles ont pensé à moi un moment pour ce personnage, donc qui est en quelque sorte l'assistante réelle, enfin une régisseuse qui s'occupe des ados, qui les amène sur le tournage et qui se lie d'amitié avec eux. Et donc en fait, moi, avant même de savoir que j'allais jouer dans le film, j'ai participé pendant un moment au casting et c'est vrai que c'est super d'avoir cette chance en fait d'être multicasquette. Avec moi, j'avais toujours l'idée de jouer en tête. Je faisais du théâtre et tout, mais je m'attendais pas à ce que les films offrent un cadeau de la sorte.
Jo, est-ce que tu as une question pour Esther ?
J'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer. Ça a été un grand, grand plaisir. Je sais qu'elle fait du théâtre. Je crois qu'elle va jouer au théâtre bientôt.
Oui, l'année prochaine, je vais jouer Hamlet avec ma troupe de théâtre. Je suis dans la jeune troupe de la Talente qui est dans le 18e à Paris. Et moi aussi, c'était un grand plaisir de te rencontrer, Jo.
Et réciproquement, voilà, c'était une belle rencontre. Je compte que c'est un festival qui a été émaillé de très belles rencontres. Et voilà, tu fais partie des rencontres formidables que nous avons eues.
Ouais, c'était super.
Marie ?
Eh bien, encore merci. Mais c'est vrai que des questions, on a pu vous les poser pendant le débat. Du coup, comme tu étais là, c'était super. Donc, j'ai pas de questions immédiates comme ça.
D'accord.
Et moi, j'ai une suggestion, peut-être, je sais pas, une idée. C'est que peut-être un jour tu vas passer à la réalisation.
Oui, c'est tout à fait une possibilité.
Ah, voilà.
J'ai réalisé un film avec Luc Moulet il y a 2 ans.
Oui.
C'est un court-métrage expérimental. Oui. Mais là, je regardais justement les formations de l'AVDAS pour faire des stages en scénario et pour passer peut-être aussi à la réalisation un jour, chaque chose en son temps.
Déjà,
j'aimerais bien continuer à jouer et puis après, on verra ce que ça donne.
C'est ce qu'on te souhaite.
Ben merci.
Est-ce que tu viens du théâtre, est-ce que tu aimerais continuer dans le cinéma ou est-ce que tu préfères plus le théâtre ?
Je crois que j'aime vraiment bien les deux. C'est pas le même rapport au jeu, dans le sens où au théâtre, il y a un rapport direct au public. Au cinéma, on est entouré de gens. On joue quand même devant des spectateurs, entre guillemets, mais qui sont là aussi pour construire le film. J'arriverai pas à choisir entre les deux, mais si demain... je suis obligée de faire un choix. Je dirais que j'ai envie de continuer à tourner dans des films quand même, même si le théâtre me plaît énormément et qu'il n'y a pas que d'ailleurs quand on monte sur scène devant un public qu'on joue. Enfin, je veux dire, faire des cours, faire des stages, jouer aussi quand on est en casting, c'est hyper intéressant et c'est hyper formateur de pouvoir devenir quelqu'un d'autre en restant nous-mêmes. Je crois que c'est un beau métier.
Le film a obtenu, je crois, 12 prix à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. J'en ai peut-être oublié un ou deux par-ci, par-là. Il a été à Cannes, à Angoulême. Il est venu au festival Fifi Gros où il a gagné 2 prix. Il est parti au Québec. Tu voyages avec ?
Ouais, complètement. Ouais, on voyage toutes beaucoup. Romane et Lise ont fait pas mal de festivals et j'ai eu la chance d'en faire beaucoup aussi. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir à quel point la réception se fait, les prix qui s'accumulent. Là, c'est complètement fou. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe et on espère qu'il y aura du monde en salle et que les gens vont aller voir le film et que ça va leur plaire autant qu'aux jurys qui ont récompensé les pires jusqu'à maintenant.
On rappelle la date de sortie, c'est le 7 décembre, hein ?
Le 7 décembre, exactement.
Ça y est, ça bouge plus là maintenant. Hein.
Non, on est ça sûr. Bougera plus, on est sûr. C'est bien le 7.
Super, et ben voilà, tous rendez-vous dans le cinéma le 7 décembre.
Et puis on est certain, Esther, de toute façon, que le public qui t'a rencontré à Muret et qui a vu le film à Muret va de toute façon en parler. Parce que c'est un film qui montre bien la foi dans le cinéma, ce qu'est le cinéma, la magie du cinéma. Voilà.
Super, bah, merci beaucoup. Ça merci fait chaud au cœur. Esther. Merci.
Voilà, c'était notre premier invité. Je vous réserve des petites surprises comme ça.
Oui.
Alors, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer Yannick Chouara, qui faisait partie de la distribution du film Annie Colère.
Ah oui.
Très grand film, hein, aussi.
Ah, superbe film. Que le jury, d'ailleurs, que le jury adulte
a... beaucoup apprécié. Il était dans notre top 3, donc on a beaucoup apprécié Annie Colère. Déjà, le sujet qui est tellement d'actualité. Et puis, c'est porté par de très bons acteurs, dont Lorca Lamy, qui est excellente dans le premier rôle, quoi. Voilà.
Oui.
Oui, il a obtenu, oui, c'est ça, hein, le troisième prix du jury adulte. Hein.
Oui, tout à fait.
Eh bien, on va écouter son témoignage.
J'adore ce film.
Ah ouais.
Je l'adore. Je le trouve extraordinaire, ce film. Il est puissant, enfin, je trouve que, voilà, ça raconte un combat, une lutte. Alors, c'est... Évidemment, ça résonne, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité.
Oui.
Et là, c'est le cas. Mais il y a un élan vital dans ce film qui me bouleverse, moi, en fait. Ah ouais, je le trouve super, ce film. Et puis surtout sur la question de l'avortement, enfin, je veux dire, c'est tellement actuel, c'est hyper fort.
C'est ancré maintenant,
bah ouais.
Avec tout ce qui se passe aux États-Unis.
Ah ouais, bah, par exemple, en Alabama, un médecin qui pratiquerait un avortement, il risque 99 ans de prison.
C'est ça.
On est où, quoi ? Enfin, c'est un délire. C'est un délire.
On est revenu dans les années 60.
Ah, mais ouais.
Les faiseuses d'ange et tout.
Mais ouais, c'est un enfer, en fait. C'est...
Pendant les combattantes.
Bien sûr.
La faiseuse d'ange.
Bien sûr. Mais c'est fou. Et Blandine a su vraiment raconter ce combat-là. Enfin, je trouve qu'elle a synthétisé beaucoup de choses dedans. Et en même temps, le film peut être pédagogique à certains égards, mais je trouve ça nécessaire. Parce qu'elle le fait hyper bien. Et du coup, y a plein de gens qui sortent en disant « Ah, mais je savais pas ça, je savais pas ça. Mmh. » Et en même temps, il y a des portraits de femmes merveilleux dans le film. Et Laure est incroyable, super, une grande actrice, Laure aussi. Vraiment, elle emporte le film avec beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité dans ce film, à l'image de Blandine, vraiment. Et moi, je fais son mari, voilà, qui essaye de suivre un peu l'histoire et qui est un peu, perdu par l'émancipation de sa femme, en fait. Et ça, c'est beau aussi. C'est un film sur l'émancipation. quelqu'un qui... Et ce qui est beau aussi, enfin je ne peux pas spoiler la fin, mais bon, en même temps on la connaît, mais au moment où la loi Veil va passer, ces femmes qui se sont organisées en MLAC, ce qu'on appelle le MLAC, c'est le mouvement pour la libération, pour l'avortement et la contraception, dans plusieurs régions de France, il y avait plusieurs MLAC qui... C'était pas clandestin, parce que justement, elle voulait se faire voir, parce qu'elle voulait absolument que le gouvernement se rende compte à quel point il y avait un nombre incroyable de femmes qui se faisaient avorter à l'époque. Et donc, Laure, qui joue ma femme, qui d'un seul coup s'engage dans un MLAC et qui va au bout du truc, qui décide de pratiquer, de machin, à un moment donné, quand ça s'arrête, elle est complètement démunie. Elle se retrouve plus, sans plus de... Et ça, c'est hyper beau, je trouve, ce moment où on est dans une lutte. On obtient quelque chose, une avancée. Ils n'avaient pas tout, hein, ils n'avaient pas tout obtenu.
Non, mais
Mais on
c'était
obtient...
déjà un
Et
pas.
du coup, comment tu fais pour surpasser ça quand ça t'a constitué pendant un long moment? Et ça, je trouve ça super fort. C'est dans le film, c'est très très bien rendu. Et on va voir ensuite comment elle va transformer la chose.
C'était Yannick Choira, un commentaire?
Oui, je trouve que c'était, enfin pour nous, c'était important de parler du combat des femmes. On a pas mal de films qui parlent du combat de femmes ou de femmes qui réussissent à s'en sortir. Enfin, c'est un petit peu une des lignes finalement éditoriales du festival. Mais on oublie souvent, enfin souvent on inscrit la loi Veil comme ça. On pense presque qu'elle est tombée du ciel, quoi. Voilà, un jour, il y a eu un président qui a eu envie de faire... Mais pas du tout. C'est jamais comme ça que les conquêtes des femmes ou les conquêtes des droits arrivent. Elles arrivent toujours après un combat. Et ce combat sur l'amitié, la solidarité, le partage, la découverte de l'émancipation des femmes, tout ça, ce combat-là, on l'avait presque oublié aujourd'hui. On était avec une loi qui existe, qui était tombée du ciel. Non, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a eu un combat qui a duré des années. Et c'est parce qu'il y a eu ce combat qu'il y a eu la loi Veil après. Le
Surtout.
film le dit bien.
Et mais c'est bien qu'on ait eu un homme qui part du film, parce que dans le film, on n'oublie pas les hommes non plus. Enfin, c'est quand même, voilà, ça concerne les femmes, mais les hommes sont dans le film également. Et ça, c'est bien que Blandine Lenoir n'ait pas oublié. Et elle met des personnages importants aussi, des seconds rôles importants sur les hommes, notamment son mari. Qui la soutient au final, enfin qui quoi on comprend pas au début, mais qui est là. Et aussi dans les deux médecins, on en voit, enfin voilà, c'est une affaire de groupe au final. Voilà.
Et moi j'aime bien le moment où le personnage de Laure Calamy arrive donc et rencontre une femme, elle lui dit où est le médecin? Et le
Indiaire,
c'est Indiaire qui lui dit ben c'est moi. Oh! Alors, aussitôt, elle ne sait pas comment faire, parce que voilà, le médecin, c'est quelqu'un qu'on respecte, etc. Et en fait, médecin, soignant, infirmier, enfin, apprenti, quelque part, hein, parce que, ou femme militante, tout le monde est sur le même plan. Et ça, c'est un formidable film de combat, d'émancipation et de solidarité, ouais, je trouve.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il est magnifique, ce film. Donc, on ira le voir, c'est le 30 novembre, hein, si je ne me trompe pas. La date de sortie,
oui, je serai présente.
Ah oui, il y en a qui ne l'ont pas vu de l'équipe,
c'est
donc
ça.
Faudra y aller les filles. Hein,
ah, il faut que je rattrape, j'ai beaucoup de choses à aller voir là.
Alors, comme parrain, cette année, pour la 10e édition, vous avez choisi Jean-Pierre Méris. Pourquoi ce choix?
Alors, pourquoi ce choix? D'abord parce que nous avions envie d'inviter quelqu'un, c'est la première fois qu'on le fait, d'inviter un réalisateur qui nous consacre 2 journées, qu'il soit disponible, qu'il soit engagé, qu'il engage sa parole et qu'il la tienne. Et Jean-Pierre Améris a toutes ses qualités et qui fait un cinéma qui est de qualité, mais aussi un cinéma populaire, enfin qui populaire au bon sens du terme, c'est-à-dire qui rencontre un public. Et Jean-Pierre Améris, c'est tout ça. Et on s'est rendu compte en montrant on a montré Marie Hurtin, on a montré Les Folies Fermières, on a montré Les Émotifs Anonymes, à quel point le public est attaché à son cinéma, a envie de le voir, et puis il est d'une grande générosité dans l'échange.
Alors c'est ce qu'il a ressenti aussi, je vous passe un petit bout de son interview.
Et c'est formidable l'invitation de Muret de présenter des films qui ont Les Émotifs 12 ans, Muret, Marie Hurtin 9... Et c'est formidable parce que quand même, on est dans un monde hein, où tout disparaît de plus en plus vite, hein, où tout s'oublie, tout part à l'égout un peu. Hein. Il n'y a plus beaucoup de mémoire. Et c'est vrai que Muret, pour ça, c'est bien. Quoi. Justement, on revient sur des films sans la pression du moment où le film sort, où on est angoissé, on se dit est-ce que ça va marcher ou pas. Quoi. Et tandis que là, il n'y a aucun enjeu commercial. Donc, c'est vraiment que le plaisir que des gens voient encore un travail déjà un peu ancien. J'aime ces endroits où on vient en confiance, hein, quand même, hein, parce que on sent qu'il y a le partage de cette passion hein, du cinéma et de ce qu'on peut faire avec le cinéma, hein. C'est-à-dire bon, ce que David Comet a fait avec le cabaret, hein, qui est quand même un appel à la solidarité déjà, au collectif et au fait de sortir de chez soi quand même.
Il était ravi d'être présent.
Ben nous aussi, et il y a eu de très très belles rencontres le lundi matin, qui était hors lundi matin avec les élèves, enfin les étudiants en réalisation à l'ENSAF, donc, qui sont venus le rencontrer, qui avaient vu De Folie en Folie, dont le film de tournage, et donc qui ont assisté aux Folies Fermières et qui avaient énormément de questions à lui poser sur le tournage, sur les conditions de tournage, sur pourquoi il y a tel plan, etc. Ils avaient vraiment plein de choses et c'était très, très riche, très fort. Ça a été un formidable échange. Je trouve que c'est bien de faire un pont aussi avec les étudiants en cinéma qui rencontrent un réalisateur qui quand même a pas mal de films à son actif et est très reconnu.
Et d'ailleurs, on va continuer avec lui pour la pause musicale. Notre petite pause musicale qui est le titre d'Angus et Julia Stone. Tu peux me dire le titre
Je vais certainement mal le prononcer, c'est Beat Jet Plane.
C'est ça.
C'est ça.
On écoute. Et voilà, donc c'était la chanson qui était dans le film Les émotifs anonymes, avec Benoît Poulvorde.
Et Isabelle Carré.
Bah bien sûr,
quel duo. Deux films avec Isabelle Carré, enfin plusieurs films, mais deux films dans notre programmation, très différents, hein, Marie Hurtin et puis celui-ci.
Oui, en plus, je crois qu'il y avait une interprète qui était là, pendant qu'il faisait le débat.
Oui.
L'interprète de sourds, enfin pour les sourds.
C'est ça, Sylvie.
Alors, on va continuer avec un petit retour avec Baya Kassmi sur oui. Youssef Salem a du succès. Ça aussi, ouais. C'était un super film à découvrir.
Et un super moment.
C'est génial. Moi, c'est génial de tourner avec Ramzi et Melha. Et d'ailleurs, les deux autres qui ne sont pas leurs vrais frères et sœurs, mais qui se sont mêlés à cette fratrie.
Caroline
et Oussama qui sont... C'était hyper touchant de les voir faire famille parce qu'ils se sont beaucoup éclatés. Quoi. C'était quand même très marrant à jouer. Et ils ont tous des frères et sœurs eux-mêmes. Mmh. Et donc, voilà, moi, on a beaucoup parlé de cette relation, ces espèces de trucs. Où et puis, cette scène dans la cuisine où voilà, ils se disputent en chuchotant parce que les parents sont à côté.
Mais c'est ça.
Il est fou, ce film, avec cette famille.
Et c'est en plus très, très drôle. C'est rare les comédies qui sont à la fois intelligentes, drôles et qui nous parlent de notre société et de plein de choses qui nous concernent.
Il y avait aussi un côté scolaire, comme on disait tout à l'heure.
Oui.
Et il y a eu les jeunes enfants qui sont venus pour voir Ernest et Célestine.
Tout à fait. Alors, ils ont été très, très intéressés par le film. D'ailleurs, le réalisateur va venir cette semaine en tournée dans la région toulousaine et au cinéma VO aussi. Mais ils ont découvert ce film. Ils vont sans doute découvrir les albums aussi, parce que qui sont le point de départ, qui sont des albums un peu vieux, si je puis dire, pour eux, un peu anciens, mais les deux personnages sont absolument extraordinaires, cette amitié très forte entre deux personnages qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, enfin, ça a été, et la découverte de ce pays, qui est un pays étrange, et je sais que les réalisateurs ont eu pas mal de difficultés à inventer ce pays, à inventer un décor qui n'existe pas, parce que la Charabie, c'est un pays qui n'existe pas, et donc il fallait l'inventer. Ils sont inspirés, je crois, un petit peu du Tibet, de pas mal de pays, comme le Népal aussi. Mais bon, il a fallu inventer.
Alors, c'était des classes de primaire hein, qui étaient présentes.
C'est ça.
Et puis, il y avait aussi des personnes qui étaient là pour les encadrer. Et on va écouter des petits témoignages de ces personnes et des enfants, bien sûr.
Est-ce que ça peut leur apporter ? Ah, mais c'est un très, très beau film, plein d'humanité. Il y a de belles images. On peut rebondir sur l'amitié, la musique, le rapport à l'autre, le choix de vie. C'est vraiment un très, très beau film.
Il était trop bien parce qu'il y avait les policiers. Il y avait le juge qui tapait les policiers avec un marteau.
Eh oui, scène mythique avec le marteau. On s'en rappelle, Jo ?
Oui, oui. Et c'est vrai que ce film est dans la continuité du premier, Ernest et Célestine, qui était très réussi. Mais là, c'est d'autres réalisateurs qui avaient fait Ernest et Célestine en hiver. Et c'est toujours tendre, c'est toujours, ils sont toujours dans des aventures extraordinaires et poursuivis, et toujours poursuivis en difficulté. Mais leur amitié va les aider à avancer et à surmonter toutes les épreuves.
Je trouve ça chouette d'avoir un petit peu les avis des enfants parce qu'on ne pense pas assez souvent à leur demander ce qu'ils ont pensé d'un film, justement, alors que leur avis aussi est important. Parce que c'est quand on est enfant que notre goût se construise, en fait, un petit peu. Enfin, oui. J'avais vu une petite théorie comme ça.
Et puis la théorie, c'est aussi qu'il n'y a pas de film pour les enfants. Il y a des films qui vont plaire aux enfants, mais ce sont des films aussi qui plaisent aux adultes.
Exactement.
Ça n'existe pas un film pour enfants. Mais Ernest Célestine en est un exemple, hein. Un adulte a du plaisir à découvrir Ernest et Célestine.
Un film étiqueté pour enfants est aussi important qu'un film pour adultes. Enfin bon, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Et d'ailleurs, je sais que les personnes qui ont fait les voix, Lambert Wilson qui fait la voix d'Ernest et Pauline Brunner qui fait la voix de Célestine, ont pris énormément de plaisir à le faire.
Quand c'est bien construit, quand c'est bien, bien réalisé, que c'est bien dessiné, que les personnages sont bien saisis, bah, faire les voix, c'est facile. Enfin, c'est facile, j'en parle à l'aise. Hein. Mais je ne suis pas spécialiste. Mais je pense qu'on peut s'imprégner du personnage et le suivre. Quoi.
C'est vrai.
Juste un petit mot aussi de Patty et la colère de Poséidon.
Ah, oui.
Ah bah oui, quand même. De David Allo.
Oui.
Des studios TAT Productions qui sont à Toulouse.
Cocorico. Ah non, chocolatine, pardon.
Eh bien, Patty, oui, Patty a séduit. Il y avait une classe témoin qui est venue, qui était ravie de voir et d'avoir un masque à la fin, un cadeau. Comme m'a dit le maître d'école, il m'a dit, maintenant, il va falloir que je les ramène avec ce masque et que je fasse école, moi, après, que je les concentre. Ça va être compliqué. Mais dimanche matin, on a eu donc tout un public, jeune public était là, qui était enthousiaste, qui avait plein de questions à poser, des détails sur l'amitié entre cette souris et ce chat, voilà, ben, ou des points de vue aussi, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'était vraiment très, très, très chouette. Et les adultes, eux, ils avaient une lecture plus à travers Goldorak, à travers ceux qui savaient des musiques aussi.
L'agence Tourix.
Oui. Et David Allo se prête à toutes les questions, il répond, quelle que soit la question qu'on lui pose, il peut entendre qu'on lui dit que qu'est-ce qu'il a fait pendant 6 ans, il a travaillé sur le film, et ça paraît aux enfants d'abord assez invraisemblable. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 6 ans sur un film? Eh bien oui, on l'écrit, on le réécrit, on le réécrit, on le dessine.
Un très beau film, hein, oui. Qui tourne un peu, qui va avoir des avant-premières là prochainement.
Voilà, il a des avant-premières un peu partout. Là, il sort le 25
janvier 2023, oui, tout à fait.
Affaire à suivre.
Alors là, je vous propose, il y a un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Les Amandiers, le 16 novembre. Un très très beau film. Et on a la joie, le plaisir d'avoir Vassili Schneider. Bonjour Vassili.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Impeccable, on est très très heureux de vous recevoir parce que aujourd'hui sort Les Amandiers où vous jouez Victor. Alors Jo.
Eh bien moi, nous avons été conquis par le film, nous l'avons découvert nous à Cannes je crois. Et vraiment tous ces personnages et tous ces jeunes qui tournent autour de Patrice Chéreau finalement. Et puis on sent bien que tout un côté autobiographique de la part des amis et des proches de Valérie Abondi-Tedeschi. Et tout ça nous emporte dans le tumulte d'une époque. D'une époque où on parle de sida, où on parle d'avortement, où on parle d'amour aussi, d'amour et d'amour du théâtre, que vous incarnez si bien.
Tout à fait, merci beaucoup, c'est très gentil.
Marie ?
Mais moi, je ne l'ai pas encore vu du coup, donc j'irai le voir avec plaisir dès demain, puisqu'il n'était pas en compétition. Là, moi, je fais partie du jury adulte, voilà, mais j'en ai entendu parler, je vais aller le voir avec plaisir.
En tout cas, j'espère que ça va vous plaire.
Oh bah oui. Oui, oui, non, mais moi je suis conquise, hein. C'est mon coup de cœur, hein. On en avait parlé, et c'est vraiment mon coup de cœur de Cannes cette année. Je trouve qu'avec ces jeunes et tout, qui vivent à 100 à l'heure, qui essayent de mordre la vie à pleines dents, dans ce métier de comédien qui n'est pas toujours évident, hein, on est d'accord.
C'est sûr.
Et puis, moi j'aime beaucoup votre rôle, Victor, ce rôle de petit, enfin, d'amoureux transi. Qui me fait bien rire avec toutes ces petites blagues, les portes, la peinture, tout ça. Ça n'a pas été trop compliqué ?
Non, c'était pas compliqué. C'était super parce que Valéria, elle nous challengeait tout le temps. Puis on avait envie de se surpasser, on avait envie de la faire rire. Moi, j'étais tout le temps en train de réfléchir à comment plaire à Valéria, et donc c'était vraiment challengeant, et c'était un des plus beaux tournages que j'ai fait de ma vie.
On le sent en tout cas, hein.
Et on voit l'importance, enfin le cœur qu'elle met dans ce tournage par rapport à ses comédiens dans le film Des Amandiers aux Amandiers, qui est sur le tournage du film, quoi.
Oui,
et c'est extraordinaire de la voir. Oui.
Oui, tout à fait, on l'a vu, ouais.
C'est extraordinaire de la voir à l'œuvre avec tous ces comédiens, avec ouais. comment elle accompagne, comment elle soutient, comment elle explique, comment, enfin, ça, la force du cinéma et la magie du cinéma, c'est ça.
Ouais, non, le documentaire est vraiment très beau aussi. Ouais. Et c'est très intéressant pour n'importe quel artiste, n'importe quel acteur, réalisateur, de voir ce documentaire, parce que ça explique le processus de la création, en fait. Donc, oui. C'est un super beau documentaire.
Comment elle tient la main à tous ces comédiens, finalement, pour qu'ils arrivent à donner le maximum de ce qu'elle attend, la vibration qu'elle attend jusqu'à ce qu'elle ait cette vibration. On voit bien, on le sent bien. Et j'espère que tous les comédiens ont vu la maman et la putain.
Oui, 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 elle nous avait fait une projection.
Oh, je rigole parce que dans Amandie aux Amandies, elle dit, mais vous avez pas vu Le Maman et la Putain, il faut le voir ce film.
Mais oui, mais elle nous l'a montré. Oui. Elle nous l'a montré, ouais.
Quel a été le moment qui t'a le plus touché dans le film, à jouer la scène ? Qui en a une en particulier ?
Alors, oui, c'est une scène qui n'est plus dans le film.
Frustration ultime. On ne pourra pas la voir.
C'est une scène qui n'est plus dans le film, mais c'est une scène où mon personnage était avec Étienne à Central Park. Et il m'offrait une paire de bottes et on discutait, je lui parlais de mes angoisses et on finissait par s'embrasser.
Ah bon ?
Et ouais.
D'accord.
Et c'est une très jolie scène qui était profonde, très profonde et légère en même temps. Donc j'aimais beaucoup cette scène. On l'a répétée, on n'a pas pu la tourner à cause du Covid parce mm-hmm. que... Quelqu'un est tombé malade. Ah. Valéria était tombée, a été cas contact et on n'a pas pu la tourner. Mais ça, c'était une superbe scène, en tout cas au scénario. Puis quand on la répétait, j'avais très, très hâte de la tourner.
Ben, j'imagine, oui. C'est vrai que... Mm-hmm.
Le cinéma, c'est ça, c'est que quelquefois, voilà, au montage, pour des nécessités de montage et l'importance du montage, une scène disparaît, et une scène importante, ouais. Voire quelquefois surtout, un personnage surtout, disparaît.
Surtout sur ce film, parce que la première version du montage, le film faisait 4h30.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Ouais. Donc il y a plus de la moitié du film quand même qui a sauté.
On aura peut-être ces scènes coupées dans le DVD, peut-être, quand il sortira.
Alors dans le DVD, apparemment, il y aura toutes les scènes d'audition.
Ah, trop fort, ouais. Super.
Les scènes d'audition du théâtre. Pas les scènes de... Oui, c'est ça. Pas les auditions en elles-mêmes, mais Parce que dans le film commence sur des scènes d'audition,
oui.
Et elle en a gardé que 3 ou 4. Mais je crois qu'il y en avait 15 ou 20, il y en avait beaucoup. 15, j'exagère, il y en avait 15. Et du coup, je pense qu'elle va les mettre dans le DVD. Mais par contre, il n'y aura jamais les autres scènes qui ont été coupées, parce que c'est beaucoup trop compliqué et ce serait beaucoup trop long, je pense, de faire ça.
Bon, en tout cas,
c'est comme ça, oui, ça fait partie du cinéma.
Oui. On invite tout le monde à se rendre au cinéma pour aller voir Les Amandiers.
Je le rajoute dans ma liste.
Voilà, tout le monde, vous notez, ceux qui n'ont qui pas été là. Marie, tu notes, demain, tu vas voir Les Amandiers. Merci beaucoup, Vassili.
Merci.
Merci
à vous.
Merci, Vassili.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au Festival international du film de Muret, j'ai pu voir Les Engagés d'Émilie Frèche, qui sort aujourd'hui, mercredi 16 novembre. Si le nom d'Émilie Frèche vous dit quelque chose, c'est normal, c'est une auteure qui a fait de nombreux livres et écrit des scénarios. Et là, elle passe à la réalisation de son tout premier long métrage, avec un duo pour moi épatant, Benjamin Laverne et Julia Piaton, qu'on a l'habitude de voir dans des comédies qui nous font rire. Et là, ils nous touchent, ils nous émeut, on ressent leur colère par rapport au sujet du film qui est « Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle, qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s'engage à l'aider coûte que coûte. Pour moi, c'est un film coup de poing, éveil des consciences. Le jeune migrant, Joko Jaillet, est joué brillamment par Youssouf Gueye. Et Lily, la fille de Gabriel, est jouée par Luna Bevilacqua. Je trouve que c'est un film où on se dit, est-ce qu'on va rester et laisser faire de notre côté ou épouser leur cause et tendre la main. Voilà, je crois qu'il faut vraiment penser à ce film. Je crois que ce film a un message très fort et résonne aujourd'hui par rapport à l'actualité des migrants et toujours cette frontière entre l'Italie et la France. Et le fait que ce qui est fou, c'est quand ils sont dans la montagne, on peut les arrêter, les renvoyer en Italie, militari, sans forme de procès. Et quand ils sont dans le refuge, en bas, tranquille, à Briançon, là, ils ne sont pas inquiétés. Ils peuvent faire leur demande d'asile en tant que mineurs isolés. Voilà, ce qui est assez improbable. Et puis, il y a aussi le rôle de Bruno Tedeschini, Vincent, qui n'est pas évident puisque il est policier. C'est même lui, je crois qu'il est, il est commissaire de police. Et il doit faire la part des choses entre l'amitié qu'il ressent pour David, qui est joué par Benjamin Laverne, et son devoir de policier et les ordres qu'il a reçus. Voilà, c'est pas tout, parce que ce film est complété. Alors, dans le film, on a la vision des parents, de tous les adultes. Les jeunes parlent très très peu. Et en fait, Émilie Frech nous a fait un cadeau. Elle a fait un livre qui s'appelle « Aussi les engagés », qui sort en même temps que le film, Hachette. Ouais, c'est ça. Et là, c'est la vision de Lily et de Joko Jaillet qui sont mis en avant. Et donc, on va découvrir ce qu'on ne voit pas dans le film. Leur parcours, leurs sentiments. Ce livre s'adresse un peu plus aux adolescents. Mais croyez-moi, moi, quand je suis sortie de la salle, j'ai couru l'acheter. Et je suis plongée dedans actuellement. Et je trouve que la lecture est facile, qu'on est vite amené et qu'on a très, très, très envie de découvrir leurs sentiments, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils écrivent dans leur journal. Donc, je vous conseille fortement ce film et ce livre, du coup.
Je crois qu'on a une interview. Alors, malheureusement, on n'a pas pu la faire en direct parce qu'il n'était pas libre avant. Mais on a Rachid Bouchareff qui nous a...
Réalisateur Rachid Bouchareff, de Nos Frangins, que j'ai vu.
Voilà, c'est ça. Nos Frangins, qui nous a accordé un peu de son temps et qui a reçu le troisième prix du jury jeune.
Alors, nous avons le plaisir de recevoir Rachid Bouchareb, qui vient nous parler de son film Nos Frangins, qui était non seulement au Festival du film de Muret, mais également au Festival international du film de fiction historique. Bonjour Rachid.
Oui, bonsoir.
Moi, j'avais une question à vous poser, c'est comment vous est venue l'idée du film Nos Frangins ?
Oh, il y a très longtemps, oh là là, il y a des années. Je devais, avant de passer à ce film, réaliser un film qui s'appelle Indigène, un autre qui s'appelle Hors la loi, et celui-là, c'est le troisième volet. Disons que ça fait partie de ma trilogie. Mais donc, entre-temps, j'ai fait d'autres films, bien sûr, mais c'était un projet que j'avais depuis des années.
Alors, on peut voir qu'il y a un
travail d'archivage incroyable. C'est ça que tu voulais
exactement,
dire.
Exactement, c'est exactement ça que je voulais dire. Effectivement, on peut voir qu'il y a un gros travail d'archivage. On peut soupçonner un gros travail d'archivage et de recherche. Est-ce que ça a été difficile à faire comme travail d'archive, comme recherche ?
Écoutez, non, je pourrais pas dire ça parce que, bon, d'abord, il y a un Institut national de l'audiovisuel qui garde toutes les archives. Donc, moi, je me suis concentré sur quelques jours entre la journée du 5 décembre jusqu'au 10 décembre, je crois que c'est ça, oui. Et donc, j'ai fait des recherches dans cette période, c'est-à-dire un petit peu avant quand même, début décembre, c'est-à-dire tout le mouvement étudiant contre la loi de Vaquet. Puis ensuite, à partir donc de la mort de Malik Houssekine et celle d'un autre garçon, hein, le spectateur le découvrira dans le film, hein, qui s'appelle Abdel. Mais disons que j'ai été chercher toutes les archives des déclarations des hommes politiques de l'époque, de la cohabitation, parce qu'on avait donc François Mitterrand qui était président, Jacques Chirac qui était Premier ministre, on avait un ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, on avait le ministre de Vaquet, de l'Éducation, on avait aussi Robert Pendreau, on avait Pierre Mauroy, et puis on avait tous ces présentateurs de l'époque, Noël Mamère, Claude Sérillon, Bernard Rappe, tous ces présentateurs des journaux télévision, de télévision à l'époque. Hein, je vous parle des années, donc 1986, décembre 1986, voilà. Donc ça n'a pas été très compliqué, il a fallu surtout beaucoup de temps pour donc voir toutes ces images, puis après demander encore plus de choses, parce que plus on avançait avec Kaunter, la co-scénariste, plus on avançait, plus on voulait avoir plus de choses, des images de Nantes, de Rennes, de Bordeaux, de Lille, parce que le mouvement était national, voilà.
Alors justement, en parlant des images, vous êtes un petit malin, parce qu'il y a des images d'archives, et dedans, il y a incrusté des images que vous avez tournées pour le film, que vous avez rajouté et qui nous ouvre un prisme, on va dire une prolongation de ce qui se passe.
Oui, parce que, par exemple, je n'ai pas retrouvé les archives à l'intérieur de la Sorbonne, quand il y avait toutes ces réunions d'étudiants qui occupaient la Sorbonne. Donc, il a fallu les tourner. Hein. Je suis parti à partir de matériel de photographie à l'époque. Mais filmer, il n'y avait pas. Parce que, bon, on n'était pas à un moment où tout le monde, comme aujourd'hui, pouvait sortir son iPhone ou son téléphone et faire des images. Donc, comme à l'extérieur de la Sorbonne, c'était des images d'archives, j'ai continué, moi, à faire des images à l'intérieur, tout en passant quand même aux scènes, à des images de la caméra, la deuxième ou la première caméra qui faisait donc les plans, j'appellerais ça cinéma pour le film. Donc c'est un mix entre les deux, quoi. C'est-à-dire que je vais de l'un à l'autre, et puis il y a des fois aussi, il y a des images qui n'étaient pas de très bonne qualité, son et images, comme par exemple avec les voltigeurs, il y a une scène comme ça ou deux que j'ai reconstituée, mais pour ça il a fallu qu'on trouve ces caméras qui étaient utilisées par la télévision en 1980, dans les années 80. Donc ça nous a pris du temps et on a réussi à trouver deux caméras qu'on a donc achetées et qui ont donc servi pour le film. Et ça amenait aussi quelque chose, c'est-à-dire de rajouter aussi un peu un style pour le film, quoi.
Oui, tout
et
à
pas
fait.
Seulement, il y avait ça, mais c'était intéressant de trouver une forme pour le récit. Et comme les archives sont très importantes, parce qu'il y avait tout un discours à l'époque politique, tous les hommes politiques se sont retrouvés et ont géré la mort de Malik Houssekine, par exemple, tout ça au cœur des manifestations d'étudiants contre les réformes de l'université.
Alors moi, j'avais une question, mais plus par rapport au travail du son dans le film que je trouve vraiment incroyable, pardon, et qui m'a vraiment marqué. Et en fait, en regardant le film, ce que je me suis dit, c'était vraiment qu'en fait les moments de silence étaient presque aussi parlants que les moments de dialogue, en fait. Et comment vous avez justement travaillé le son, la musique dans le film?
Écoutez, ça, c'est des choses dont on réalise pas pendant qu'on fait ça, quoi. C'est-à-dire que le son, moi, il y avait des, par exemple, pour la musique, effectivement, d'abord, il y avait une chanson de Renaud qui s'appelle Petite et qui chante donc. Il parle de Malik Houssekine et d'Abdel Ben Yahya, et qui parle du mouvement, je dirais pas du mouvement, mais de toutes les violences policières dans sa chanson. Donc ça a été fait, cette chanson est sortie en 1988, hein, très vite après ce qui s'est passé en 86. Et puis à ça, pour la musique, j'ai rajouté des groupes de l'époque, Rita Mitsouko par exemple, La Mano Negra, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Renaud, et puis une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Warda, chanteuse algérienne, qui a été une des grandes divas de la chanson en Égypte. Donc j'ai trouvé intéressant de l'intégrer aussi dans le film. Et puis après, tout ce qui concerne les silences, effectivement, parce qu'on a dans cette histoire un personnage qui est un père de famille qui ne s'exprime pas beaucoup. Et on le voit tout au long du film déambuler dans son attente. Et donc, effectivement, il a fallu que le son puisse coller au personnage. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que dans le film, et c'est vrai, il y a beaucoup de moments où le son, quand ça concerne ce personnage, il n'est pas plongé dans les manifestations. C'était intéressant d'être à son niveau, Et comme les manifestations, c'est toujours... c'est bruyant, il y a du monde, il y a de la foule, et que lui, dans son histoire, il est seul et isolé. Il n'est pas du tout dans le mouvement, et il ne le suit même pas. Il est isolé dans une banlieue. C'est pour ça que le son raconte la même chose.
Et vous avez très bien choisi, enfin, je pense qu'on est toutes d'accord, hein, pour dire que le casting est merveilleux, notamment Lina Coudry, son rôle lui va ravir. Vous aviez déjà une idée de qui jouerait les rôles ?
Oui et non, c'est-à-dire le seul, c'était Reda Kateb, il est arrivé dans le projet parce qu'il convenait aussi très très bien. Lina, je l'avais vue dans un film il y a plusieurs années, et donc étant une excellente actrice et agréable aussi dans le travail, je lui ai donc proposé le rôle, et Samir Ghesmi, avec qui j'avais travaillé dans un film il y a 10 ans, je lui ai demandé de venir dans cette aventure. Et puis Raphaël Persona, c'est pareil, c'est un acteur que j'ai rencontré après avoir vu quelques acteurs.
Moi j'avais une question finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de ce film?
Rien de particulier, je dirais, parce que tous les films sont difficiles. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir un film facile. Donc on se retrouve dans les mêmes problèmes, quoi, c'est-à-dire d'essayer de trouver une harmonie entre l'histoire et puis après la mise en image de tout ça, avec les acteurs, avec les techniciens, avec les décors. Ce qui était difficile, c'est vrai, un petit peu plus que les autres films, c'est que quand j'avais fait des films qui se passaient en 1940, l'histoire de guerre, la libération de la France en 42, 43. Et puis après, j'avais fait un autre film, le suivant, qui se passait dans les années 50. C'est beaucoup plus facile à reconstituer au niveau décor et costume, parce que c'est assez clair, les périodes. Et il y avait des vrais changements de costume et de coiffure. Par contre, 1986... c'est beaucoup plus difficile, voilà. Ça, c'était la seule difficulté du film, c'est-à-dire costume, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on met aujourd'hui, quoi. Et puis, il y a le retour des modes. Années 80, par exemple, on me disait, ouais, c'est le retour des années 80. Ah là là, je me disais, ah bon, oh là là, la difficulté. Et c'est vrai que c'était difficile, là, de pouvoir s'en sortir avec toute une période où les vêtements ressemblent à aujourd'hui, avec les modes qui reviennent. Donc on m'a dit que c'est années 80, donc voilà. Ça, c'était la seule tracasserie dans le film.
En tout cas, c'est réussi, on est transporté, vraiment.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut rappeler la date de sortie du film de Nos Frangins ?
Oui, c'est le 7 décembre, partout en France.
Eh bien, on sera là, on sera présent.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Rachid.
Au revoir.
Voilà, un très beau message de Rachid qu'on remercie encore. Hein.
Et puis, c'est un très, très beau film qu'il a réalisé, je trouve, qui a été primé par les jeunes, mais... c'est un film. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Samir Ghesmi. Je trouve que ce personnage qui est totalement naïf, qui va rentrer dans cette spirale sans rien comprendre. Reda Kateb lui incarne plus la famille Ousekine. C'est plus une famille qui est plutôt bourgeoise, enfin, qui est dans certains milieux, qui elle va comprendre dans quel imbroglio elle est. Mais le personnage Samir Ghesmi, lui, il est totalement naïf là-dedans, et on va lui cacher la vérité. Enfin, moi, je trouve que c'est une des forces du film.
C'est vrai.
Et après cette histoire, les voltigeurs n'ont plus existé.
Non.
En fait, ils ont été remis, mais sous un autre nom.
Oui, mais beaucoup plus tard.
Oui. Ah oui, bah, dernièrement.
Dernièrement, avec les gilets jaunes.
Voilà.
Mais ça avait été tellement...
ça avait fait scandale. Ça avait
tellement scandale que ça a été interrompu. Mais soyons rassurés, par exemple, en Iran, les voltigeurs, enfin, l'équivalent, ça fonctionne très très bien dans les manifestations.
Oui.
Ça peut tuer, ça peut...
Ah oui, il n'y a pas de problème.
Marie, quelque chose ?
Oui, bah, j'ai trouvé ce film très très prenant. On rentre complètement dans l'histoire et moi je connaissais deux noms, mais j'ai pas connu cette époque, donc ça m'a vraiment remis dans l'époque actuelle et ça nous fait malheureusement penser un petit peu à ce qu'on vit avec les gilets. On a vécu récemment avec les gilets jaunes notamment. Mais les archives, l'enchaînement des archives et de la fiction est très très bien fait. Vraiment, on sent pas la différence presque. Enfin, on rentre dedans. Et c'est vrai que Samir Ghazemi est très très touchant dans le film. Quoi. Il est à fleur de peau, il est magnifique. Mais notamment aussi, ben, comme l'a dit le réalisateur, Lina Koudry et Reda Kateb, entre autres. Et aussi souligner la scène de fin qui est très très belle et qui est très émouvante avec la musique de Renaud qui l'a rappelée petite.
Ouais. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que, pour revenir un peu sur ce que tu dis, Marie, c'est que... Oui, on a d'un côté le côté fiction, ce qui fait qu'on va rentrer en empathie avec les personnages, et de l'autre, le côté image d'archive, donc ce qui va nous ancrer dans l'époque, et ce qui fait qu'en fait, quand je suis sortie du film, j'avais l'impression d'avoir vécu l'histoire avec les personnages, quoi, vraiment.
C'est ça. Oui, tout à fait.
Allez, on fait une petite pause musicale avant de faire la dernière partie. Mais avant, je voudrais juste dire que ce jury jeune m'a beaucoup épatée, parce qu'en deuxième prix, il y avait les 8 montagnes,
oui.
Quand même.
Ça m'a
qui est assez impressionnant.
Oui, oui, oui.
Et alors le premier prix, alors là c'est encore plus, moi je suis tombée de haut, c'est La femme de Tchaïkovski.
Oui, moi ça, personnellement ça m'a beaucoup étonnée parce que c'est quand même pas un film d'un abord facile, c'est un très beau film, mais nous on aime beaucoup ce que fait Kirill Serebrennikov, c'est sûr, mais je suis contente qu'il ait rencontré un public jeune. Et c'était pas, pour nous c'était pas gagné.
Carrément pas.
C'est ça, oui.
Et ils étaient dithyrambiques, hein, sur le film. Ils le défendaient corps et âme.
Absolument, oui.
Donc voilà, donc je vous offre une autre pause musicale.
Un groupe que j'aime beaucoup, c'est One Republic, il me semble.
Oui, c'est ça, avec I Ain't Worried, c'est ça ? J'ai bien prononcé ? I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so. But I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive. 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods. Dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried. Cette chanson qui vient de Top Gun Maverick, le fameux film qui a fait un carton. Et là, j'ai le premier prix du Festival International du Film de Muret, jury adulte. Et on a la chance donc d'avoir pour Habib la grande aventure, Bastien Huguetto. Bonjour Bastien.
Bonsoir, ça va bien ?
Impeccable. Je suis en présence de Jo, Jo Loubet.
Coucou Bastien, ça va ?
Salut Jo, ça roule.
Et Marie Lacombe, qui faisait partie du jury adulte.
Salut.
Salut Marie, merci beaucoup pour ce prix, on est très contents.
Bah avec plaisir, vraiment c'était à l'unanimité, on voulait vraiment récompenser Habib. On a hésité entre l'acteur ou le prix, mais on a mis prix au global parce que en fait il y avait plein de choses bien, donc on a récompensé le prix, le film en entier.
Franchement merci beaucoup, c'est une super nouvelle, on est ravis.
Oui, alors pour nous ça a été une belle découverte aussi. Quand on a vu le film, on en a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé entre nous, et puis vraiment ça nous a, et puis ce rôle de quelqu'un d'origine maghrébine qui est incarné par quelqu'un d'origine italienne, c'est tout à fait, c'est absolument formidable. Et merci Bastien pour cette incarnation.
Ça me fait plaisir, monsieur. Oui, c'est vrai que ça reste quand même un sujet, mais vu qu'il sert quand même le propos du film, je trouve ça chouette que ça puisse être interprété de façon aussi positive et s'incarner dans un prix comme ça. On pourrait en parler pendant des heures, il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que nous, on a été ravis de venir à Muret, découvrir le festival qui est comme ça, qui vit grâce à vous, quoi.
Et grâce au public aussi, parce qu'il est venu ce public, et quand on dit que le cinéma est mort, c'est pas vrai.
Ah, c'est pas vrai, non, c'est une belle période en plus en ce moment, le box-office est au beau fixe, et j'ai pu le voir de mes propres yeux à Muret, qu'effectivement on avait une belle salle remplie pour la projection, non, c'est chouette, les gens sont de retour, ça fait du bien de faire du cinéma, d'aller au cinéma, c'est un moment convivial, que ce soit solitaire ou à plusieurs. On est toujours entouré quand on partage un film. Et moi, c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait partie des raisons qui me font aimer ce métier. Donc, je suis ravi.
Et le public rencontre les comédiens. Et là, c'est formidable quand même parce que ça fait de beaux échanges aussi. Les gens sont ravis. On avait quand même un gros handicap ces jours-ci, c'est qu'il a fait un temps d'été. De quoi partir à la mer et aller se tremper dans la Méditerranée.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il faisait beau quand on était là. C'est vrai qu'en se mettant dans le cinéma, on se dit, tiens, c'est vrai qu'on serait bien aller voir Muret au soleil.
Ouais. Alors moi, je crois que ce qu'on a... Enfin, moi, j'ai personnellement adoré beaucoup toute la séquence avec Catherine Deneuve, parce que cette hiérarchie qu'il y a dans le cinéma, qui existe entre le petit comédien, qui est pas reconnu, quoi, qu'on ne considère pas beaucoup, et la grande Catherine Deneuve, c'est vraiment un moment extraordinaire. Sur le tapis, là, sur le tapis de course, là, c'est extraordinaire. Hein, quand on arrête le tapis, il dit, eh ben, comme tu dis, en courir. Il faut aller voir Habib, il faut découvrir Habib. C'est un film très drôle où on sourit souvent plus qu'on ne rit, et on a beaucoup d'émotions aussi, je trouve.
Mais il y a plein de messages dedans, dans Habib, la grande aventure. On est d'accord, Marie ?
Oui, tout à fait, c'est pas une simple comédie, c'est aussi pour ça qu'on l'a primé, c'est qu'on a ri, mais en effet, il y a aussi plein de messages derrière, et on a été émus, notamment la scène de fin, je vais pas spoiler, mais tu es très émouvant quand tu parles au père, il y a pas que cette scène, mais il y avait plusieurs scènes d'émotion.
Oui, de l'émotion, du partage. Et puis ce garçon qui, en fait chez lui, il n'arrive pas à trouver sa place. Il ne sait pas trop par rapport à ses racines, où se positionner. Est-ce qu'il faut les oublier ? Est-ce qu'il faut les effacer ? Jouer Saint-François d'Assise, pourquoi pas ? Et oublier totalement ses origines. Ou est-ce qu'il faut au contraire... Et avec le mouton, là, les origines, elles reviennent direct. Oui. Et la complexité des situations. Donc je trouve que c'est un film tendre, comme ce que fait Benoît Mariage.
Ah ben ça fait plaisir à entendre et je lui transmettrai, il sera ravi également d'avoir ce retour de votre part. C'est vrai que c'est un film, je pense, qui fait du bien et qui est sur un ton aussi qu'on n'a plus assez l'habitude de voir, parce que tout en étant une comédie décalée, il y a quand même quelque chose de très humain et d'intime qui fait ressurgir beaucoup de sentiments chez les personnages et le spectateur. Et c'est un cinéma finalement qui, sur un fil comme ça, entre deux, et d'une certaine façon un peu acerbe aussi sur certains sujets qu'il aborde, je trouve qu'il fait défaut parfois à l'heure actuelle, donc c'est assez chouette. En tout cas, moi je suis vraiment très heureux d'en faire partie, quoi. Benoît Mariage, c'est un très bon réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut, qui travaille très proche de ses comédiens, mais surtout qui a beaucoup, beaucoup réfléchi et bossé en amont son scénario. Il a notamment beaucoup lu les textes de Christian Bobin, dont des textes qui sont issus du très bas, comme par exemple le monologue de fin que je fais face à mon père. C'est vraiment, il y a une démarche aussi qui est derrière, qui est assez intellectuelle et qui se ressent pas du tout, mais qui donne juste, je trouve, corps et une âme au film. Et moi, je trouve ça assez beau, quoi.
Le film réussi, finalement, c'est le travail des comédiens, le travail du réalisateur, et ça ne se voit pas.
Bah ouais.
Voilà, ça ne doit pas se voir. On ne voit pas les coutures, on ne voit pas. Et le public, il rentre dedans, voilà.
C'est ça qu'il faut aspirer, oui.
Il rentre dans l'émotion, dans le sourire, dans le rire. Et c'est je crois que c'est ça, le cinéma, la magie du cinéma, c'est ça.
Bah oui, moi, c'est les films que j'aime, en tout cas.
Et puis, il y a ce duo aussi avec Sophia Le Saffre. Moi, j'adore quand vous jouez tous les deux ensemble.
Ouais. Ah, elle est trop bien, Sophia. Bah, c'est le personnage, pour moi, le plus fort et le plus touchant du film. La scène face au père, quand il revient pour se faire soigner en Belgique et qu'elle ne l'a pas vu depuis des années, elle est là et elle ne travaille pas ce jour-là, mais elle a quand même mis son costume de Thalys et c'est pas commenté, mais c'est juste pour lui dire, justement, pour qu'il voit qu'ils ont réussi sans lui et qu'ils n'ont pas besoin de lui et qu'elle est forte et qu'elle tient la famille. Je trouve que c'est une comédienne formidable et qui est desservie par un rôle qui l'est tout autant. Et travailler avec des gens comme ça, c'est un plaisir. C'est vraiment une concentration, une exigence, une force de proposition, une vitalité. C'est vraiment quelqu'un de superbe, cette actrice.
C'est un réalisateur qui aime ses comédiens et qui leur donne leur place, leur part.
Voilà. Bah oui, et leur chance aussi. Hein.
Oui.
Bah, merci beaucoup. Hein. Merci d'être venu déjà au festival.
On a beaucoup apprécié l'échange et merci encore d'être venu.
C'était un plaisir. On était ravis d'être là. On a été très bien accueillis.
On reviendra.
On aurait bien aimé que ça dure plus longtemps. Même.
On t'embrasse, Bastien. Merci.
Merci beaucoup, Bastien.
Je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée.
À très vite. Au revoir.
Au revoir.
Un petit cadeau avec Bastien, hein, le premier prix.
Enfin, toutes les rencontres, tous les réalisateurs, tous les comédiens, les gens qui sont venus, je trouve que c'est des belles rencontres et ça a été très généreux, de beaux échanges, des gens qui sont à la fois simples et puis pertinents et proches du public et à l'écoute. Et ça, je trouve que c'est ça le cinéma. Et la vie du cinéma, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Le cinéma vit toujours et vivra toujours pour moi. Je pense, je l'espère, je le crois.
Et puis juste avant l'émission, le début de l'émission, Marie, tu as eu la chance de pouvoir interviewer Emmanuel Nico, qui est le deuxième prix, alors si je ne me trompe pas, du jury adulte avec Dalva.
Oui, on a eu la chance de pouvoir la voir entre deux. Et elle s'est donné un plaisir à parler de son film et à répondre à nos questions, notamment sur sa motivation à faire le film, les raisons pour lesquelles il l'ont poussé à aller plus loin, puisque en fait, elle avait commencé par un premier court-métrage sur le sujet, dont je n'ai plus à l'arracher, je crois.
À l'arraché, oui, tout à fait, le court-métrage. Ouais.
Et après, elle a eu envie d'approfondir, donc elle nous a donné des informations là-dessus. Elle a notamment été dans des foyers dans le nord de la France, et c'est là qu'elle a vu des situations qui l'ont vraiment choquée, un peu étonnée, et elle a eu l'idée d'aller sur ce point de vue-là, qui est assez particulier.
Ils l'ont marqué, en fait. Ça, c'est une immersion qui l'avait marqué.
Eh bien, on va l'écouter, hein, avec grand plaisir.
Nous sommes avec Emmanuel Mico, qui vient nous parler de son film Dalva, qui était au Festival international du film de Muret et qui a reçu le deuxième prix du jury adulte. Alors Emmanuel, qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce deuxième prix ?
Eh bien écoutez, ça m'a fait très plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai appris visiblement, c'est un prix que j'ai reçu hier, je pense, et je l'ai appris aujourd'hui grâce à vous qui souhaitiez m'interviewer. Donc oui, voilà, ça m'a beaucoup touchée. Je suis en Pologne et je ne m'attendais pas à une aussi bonne nouvelle.
Votre court-métrage « À l'arraché » était centré sur un centre d'accueil pour adolescentes. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu l'idée de faire Dalva ?
Je pense que c'est à la fin de à l'arraché. En tout cas, à ce moment-là, je pense que je me suis dit que j'avais très envie de continuer à explorer l'arène des foyers pour adolescents. Et c'est comme ça que j'ai refait une nouvelle immersion dans le nord-est, enfin le nord-est de la France, à Forbach. Je suis partie pendant 15 jours, donc dans un foyer d'accueil pour adolescents, enfin un foyer d'accueil d'urgence pour adolescents, où j'y ai été jour et nuit, et où ce qui m'a vraiment frappée, c'est que j'ai rencontré des enfants qui venaient fraîchement d'être placés par l'aide sociale à l'enfance, et tous ces enfants, leur point commun, c'est qu'ils souffraient beaucoup plus du fait d'avoir été placés que des violences qu'ils avaient vécues en fait chez eux. Et c'était des enfants qui étaient encore complètement sous l'emprise de leurs parents et qui continuaient à faire bloc contre la justice et qui étaient avec leurs parents. Et là, je me suis vraiment dit, ouais, mais en fait, il y a un film à faire sur ce moment qui se trouve juste après le placement.
Alors, est-ce que
vous... Et après, donc, voilà, j'ai... Oui, pardon.
Non, allez-y, continuez.
Je pourrais encore développer, si vous le souhaitez, autour de cette question. Donc, voilà, j'ai donc fait cette immersion dans cet endroit. Et puis, j'ai commencé aussi, parallèlement, à faire des recherches auprès des éducateurs, auprès des juges pour enfants, parce que... J'avais envie d'en savoir aussi plus sur les enfants placés. Et à un moment donné, est arrivée à mes oreilles l'histoire d'un éducateur qui travaillait auprès de jeunes enfants et dont le travail, c'était de venir chercher les enfants dans leur domicile. Quand il y avait des suspicions de malveillance, à un moment donné, on l'a contacté parce que il y avait une petite fille de 6 ans qui vivait seule avec son papa et il y avait une suspicion d'inceste. Et en fait, il est intervenu auprès de cette petite fille et il s'est retrouvé face à une enfant de 6 ans qui était très sexuée, très sensuelle et qui était dans un vrai jeu de séduction par rapport à lui. Et il a pris cet enfant, il l'a envoyé du coup dans un foyer et l'histoire s'est arrêtée là pour lui et aussi pour moi parce que je n'ai su que ça de cette histoire. Et en fait, Dalva, ça a été j'ai créé l'histoire de Dalva par rapport en fait à cette immersion que j'avais fait et par rapport à cette histoire que j'ai entendue et je me suis demandé qui serait devenue en fait cette petite fille de 6 ans à l'âge de 12 ans, à l'âge de la puberté, des premiers émois, et c'est comme ça que le projet de Dalva est né.
Bonjour, moi je suis Marie, j'étais jury adulte du coup dans le festival.
Okay.
Au nom du jury,
enchantée.
Enchantée. On tient à vous remercier pour ce film parce qu'on l'a beaucoup apprécié et on l'a classé deuxième prix, donc voilà, il nous a bien plu. Et on a beaucoup aimé le point de vue que vous avez choisi, que vous venez d'expliquer, l'enfant qui est sous l'emprise de son père, quoi. Enfin, c'est assez fort. Et moi, je pensais même pas que ça pouvait exister. Enfin, c'est vrai que ça m'a totalement surpris. Et en même temps, c'est un film très dur, mais qu'on a apprécié parce qu'il y a une histoire d'amitié derrière dans le foyer avec Samia, qui est quand même qui a un second rôle très intéressant et qui est très forte. Samia aussi, on l'a bien aimée avec évidemment l'actrice principale, mais elle sort aussi de l'écran, quoi. Et je me demandais du coup combien de temps on avait une question sur l'immersion, on s'en rend compte qu'en effet où il y a une recherche et où vous avez vécu dans des foyers, et puis on s'était un peu renseigné sur votre court-métrage, et on se demandait combien de temps avait duré le tournage à peu près.
Alors le tournage, en tout il a duré 42 jours, on a tourné en moyenne à peu près 2 mois. Ça fait beaucoup de jours en fait pour un tournage, on ne se rend pas compte parce que très souvent les premiers longs métrages, en plus quand il n'y a pas énormément de budget, généralement on fait quand même peu de jours de tournage. Il y a des fois des tournages qui sont bouclés comme ça en 20-25 jours. Bon, là en tout cas tout l'argent qu'on a reçu dans notre film, on l'a vraiment utilisé pour étaler au maximum le tournage parce qu'on tournait avec des enfants et qu'on avait des normes assez strictes à respecter au niveau des durées des journées et on pouvait pas faire n'importe quoi. Et donc on faisait des journées quand même qui étaient, on faisait des 8 heures plateau. Mais c'était des courtes journées en tout cas pour le cinéma.
Et est-ce que tous les acteurs étaient des comédiens ou bien il y avait des personnes vraiment qui étaient en foyer, enfin de vrais des amateurs on va dire.
Alors, au niveau des acteurs, des actrices, tous les enfants que vous voyez dans ce film, hormis le petit garçon bouclé, qui s'appelle Timmy, qui avait tourné dans un film précédemment, tous les enfants que vous voyez n'ont jamais tourné dans le film. On n'a jamais tourné, pardon, dans aucun film. Tous les adultes, par contre, étaient des acteurs professionnels. Et non, il n'y avait aucun enfant qui avait déjà été en foyer, qui tournait dans ce film. C'était un réel souhait de ma part qu'il n'y ait aucun enfant qui ait déjà été dans un foyer, parce que, enfin, pour les avoir côtoyés, pour avoir suivi pendant des années et des années, notamment deux enfants qui m'ont beaucoup inspiré, les personnages de Samia et le personnage de Dimitri, donc ce petit garçon bouclé, qui sont des enfants que j'ai rencontrés donc à Forbach il y a 6 ans et avec qui je suis encore en lien. C'est des enfants qui sont trop abîmés et je ne souhaitais pas les faire jouer dans un film qui parle de ça, parce que même au niveau de la direction d'acteur, on est obligé d'aller souvent chercher dans des terreaux personnels pour faire jouer les enfants, notamment les gens non professionnels. Et en fait, par rapport à des enfants qui ont des histoires comme ça très très compliquées, on ne sait jamais quelle porte, on ouvre une porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et moi, j'ai pas du tout, je ne souhaitais absolument pas aller remuer des traumatismes auprès d'enfants abîmés. Voilà.
Alors justement, en parlant de ce sujet-là, vous avez choisi pour le personnage de Dalva, qui est quand même assez ambigu, la petite pépite Zelda Samson, qui est accompagnée brillamment par Alexis Mananti et Jean-Louis Coulonc. Comment le choix des acteurs s'est fait ?
Alors, concernant en tout cas Dalva, moi j'ai lancé un très très grand casting entre la France et la Belgique. Moi, il faut savoir que en parallèle de mon activité de réalisatrice, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai fait aussi beaucoup de direction de casting sauvage. Donc, c'est-à-dire où je travaille avec des gens qui sont non professionnels, et je souhaitais faire mon propre casting, en tout cas concernant le territoire belge, donc Bruxelles et dans les alentours. Et puis j'ai travaillé aussi avec une autre jeune fille qui s'appelle Stéphanie Donker, qui elle s'occupait du territoire français. Et en fait, on a diffusé énormément d'annonces sur les deux territoires. On a reçu énormément de candidatures, en tout 5000. Et dans un premier temps, on a demandé des photos. Ensuite, on a fait déjà un tri sur base de photos. On a demandé environ 300 petites vidéos à des jeunes filles qui nous intéressaient sur base de photos, et on demandait à ces jeunes filles de se présenter. J'ai demandé à peu près 300 petites jeunes filles de me faire une petite vidéo dans leur chambre dans laquelle je leur demandais de se présenter. Et dans cette vidéo, Zelda, qui avait 11 ans à l'époque, m'a tout de suite happée, parce que c'était un ovni, en fait. Enfin bon, déjà physiquement, elle avait quelque chose, moi je trouvais, de magnétique, où je savais pas du tout en fait lui donner d'âge. C'était une enfant qui pouvait avoir 10 ans comme elle pouvait en avoir 16, dans la façon aussi dont elle s'exprimait. Elle avait un vocabulaire extrêmement riche, elle s'exprimait d'une façon où on se disait pas que c'était une petite de 11 ans. Et puis dans ses propos, elle m'expliquait qu'elle voulait devenir astrophysicienne spécialisée dans la matière noire, qu'elle se voyait prix Nobel, et elle avait un discours très féministe et très critique aussi sur les garçons de sa classe. Et il y a tout de suite eu comme ça un coup de foudre. Et donc j'ai souhaité la rencontrer en casting. Et je l'ai rencontrée, donc elle était belge, c'est une petite française en fait qui habite en Belgique avec ses parents. Et moi, tout de suite, en tout cas en casting, ça a été un véritable coup de cœur. Après, ce qui a été un petit peu compliqué, c'est qu'il fallait que je convainque tous les gens qui travaillaient avec moi que Zelda était Dalva, pouvait incarner le rôle de Dalva, parce qu'en fait, dans la vraie vie, Zelda était très très éloignée du personnage de Dalva, parce que elle était assez masculine en fait. Enfin, même au niveau de la tenue de son corps, elle regardait par terre, elle était un petit peu voûtée, elle mettait des gros sweats à capuche, elle avait des cheveux comme ça complètement décoiffés, et il fallait quand même beaucoup d'imagination pour réaliser que ça pouvait être elle, Dalva. Et donc après plusieurs mois de casting où on a quand même on a passé en revue beaucoup, beaucoup de petites jeunes filles, et où moi, de toute façon, il n'y avait que Zelda qui restait dans ma tête. J'ai fini par demander comment à ce qu'il y ait une costumière et une maquilleuse qui viennent pour complètement transformer en fait Zelda pour qu'on puisse voir qu'elle pouvait incarner Dalva. Et à ce moment-là, les gens, enfin mes productrices, mon autre directrice de casting, à ce moment-là, on a toutes vu que Dalva pouvait être incarnée par Zelda. Donc voilà, ce choix a été fait au sujet de cette petite jeune fille comme ça. Après, Alexis Mananti, moi c'est quelqu'un pour qui, pareil, j'ai tout de suite eu un coup de foudre quand je l'ai vu dans le film Les Misérables de Ladjly, où j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était capable de jouer un personnage à la fois très dur, très ferme, très sanguin, mais en même temps je trouvais que dans ses yeux il y avait comme ça quelque chose de mélancolique, de triste, et qui pouvait être très complexe en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec Alexis Mananti, c'est que c'est quelqu'un qui s'est devenu un comédien professionnel de par tous les films dans lesquels il a joué, mais en fait à la base c'est une petite pépite de casting sauvage, et c'est quelque chose qui est très délicat dans un film quand vous mêlez casting sauvage, casting professionnel. Il faut pas en fait que, enfin je sais pas comment expliquer pour être simple, il faut que les gens qui soient issus du casting professionnel soient assez rugueux pour ne pas détonner avec les gens qui sont issus du casting sauvage. Pour que, en fait, tout ce mélange soit homogène. Voilà. Et je trouvais qu'Alexis Mananti, il avait ce truc très rugueux et pas du tout trop lisse que peuvent avoir, selon moi, des fois certains comédiens professionnels. Et puis, Jean-Luc Houlock, qui incarne le rôle du père, qui est en fait l'ancien amant de Lady Chatterley, qui était un film qui était sorti en 2000, donc il y a très longtemps. Et ben, ça a été un rôle qui a été très compliqué à trouver, parce que moi j'étais très, j'avais une idée très précise au niveau du papa que je voulais trouver. Je voulais que ce soit un personnage qui soit à la fois, enfin incarné en tout cas, je voulais que ce soit un personnage qui soit incarné par un acteur qui dégage à la fois quelque chose d'inquiétant, de dangereux, et en même temps qui dégage une très grande humanité. Et c'était très complexe à trouver. Et j'ai mis presque un an à trouver Jean-Louis. Et à force de brasser des noms et des noms et de ne jamais trouver qui pouvait me convenir, et ben à un moment donné, ce nom de Jean-Louis Houlock est arrivé dans les listes de tous les noms qu'on brassait, et j'ai tapé son nom sur internet. Je me suis rappelé que cet homme existait, et rien qu'en voyant la photo, je me suis dit, mais en fait c'est lui, ce regard, c'est le père.
Effectivement, les acteurs interprètent avec beaucoup de justesse leurs personnages. Est-ce qu'on peut rappeler la date de sortie de votre film?
Oui, bien sûr. Alors mon film en France il sortira en mars 2023.
Merci beaucoup en tout cas Emmanuel de nous avoir accordé de votre temps.
Merci beaucoup.
Merci, mesdames.
Merci. Bonne fin de soirée.
Bon vol.
Merci.
Oui, bon vol.
Ben oui, merci beaucoup. Je reviens vers chez nous dans quelques heures.
Voilà, une belle interview. Merci les filles. Hein. Moi, je n'étais pas là, donc merci beaucoup Marie de m'avoir remplacée au pied levé.
C'était un plaisir.
Heureusement qu'on avait Marie avec nous.
Parce qu'elle avait vu le film, donc il fallait exactement quelqu'un qui ait vu le film pour pouvoir faire les interviews. C'était important. Marie, qu'est-ce que ça fait?
Mais c'est bien. Franchement, j'étais bien accompagnée. J'étais pas toute seule non plus. Donc ça
va. T'étais avec Tiffaine, ouais.
J'étais avec Tiffaine, exactement.
Bon, en tout cas, Vanessa, moi, je ne sais pas si je dois te remercier ou non, parce que d'un côté, j'ai fait plein de belles rencontres, et de l'autre, j'ai beaucoup trop de films à aller voir maintenant.
Ouais, je sais, ça fait toujours ça. Jo?
Eh ben voilà, le festival est terminé. On pense à l'édition prochaine déjà. Voilà, on se dit que la prochaine édition, ce sera à peu près à la même date, peut-être un petit peu plus tard. On commencera peut-être le 11 novembre. Enfin, pour l'instant, c'est à l'étude, quoi. Mais bon, on se dit qu'on va tout faire pour qu'il y ait une 11e édition, bien sûr.
Mais on sera là, hein. On sera là dès le début. On mettra en place, on fera venir du monde, et puis on parlera de ce magnifique festival où j'ai passé un excellent moment, où moi aussi j'ai été accueillie à bras ouverts, les gens étaient très chaleureux, les invités aussi, les membres du jury avec qui j'ai pu discuter, et je vous en remercie de tout mon cœur.
Bien, merci beaucoup et merci de nous accompagner parce que c'est un ensemble, c'est comme ça que se construit un festival et la force d'un festival
et un public, et parce qu'un festival c'est aussi une rencontre avec un public, et ça c'est très très important, et on est content de voir que cette rencontre avec le public, on l'a finalement, on a une fréquentation qui a augmenté, et que cette année on a une fréquentation qui est à peu près l'équivalent de l'année dernière, vu, malgré le beau temps, malgré toutes les possibilités de sortie autres qu'il y avait à ce moment-là sur Muret.
Et oui. Et Marie, je crois que ça t'a donné encore plus envie de faire ta petite formation.
Oui, tout à fait. Ça tombait vraiment à pic. J'ai été contente d'être sélectionnée pour être jury adulte, puisque j'ai enchaîné juste mardi. Ça s'est terminé dimanche. Et le mardi, je commençais une formation au cinéma dans une association à Toulouse. Donc, ça faisait une bonne introduction. Tout à fait.
Ah, donc, le prochain, peut-être qu'un jour, le festival accueillera quelque chose où Marie, peut-être, est passée à la réalisation ou où elle aura travaillé sur le film déjà.
Oui, peut-être, on verra.
C'est possible.
Merci beaucoup, Tiffaine, de m'avoir permis de pouvoir faire un petit retour sur le Festival international
Mais
du film de Muret.
Toi. Merci à toi, Vanessa, de m'avoir tiré de mon lit. Alors, l'émission touche à sa fin. C'était Ma préférence, une émission de Jacques Lavergne, présentée par Vanessa Archambault et Tiffaine Lemaine. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Jo Loubet, Marie Lacombe. Merci aussi à ceux qu'on a eu au téléphone, Esther Archambault, Vassili Schneider, Emmanuel Mico, Rachid Bouchared et bien sûr Bastien Huguetto. Merci à ceux dont on a entendu la voix sans les avoir en direct, Yannick Chouara et Jean-Pierre Améris et les enfants qui nous ont donné leur avis. Merci à nos photographes Yann Rabat et David Roca. Et parce que je garde le meilleur pour la fin, merci à Shelia Namada pour la technique et la réalisation. Ça fait beaucoup de noms, je ne sais pas si on va rebattre notre record là. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit-Occitanie et sur l'application. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt dans nos... Au revoir les filles.
Au revoir.